Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
Bienvenue dans la seconde partie de Mardi politique avec le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, est toujours à mes côtés pour vous interroger, Bernard Pellegrin de l'AFP et Lilian Alemania de Libération. Jamais le Front National n'a été aussi haut. Jamais non plus le Parti Socialiste n'a été aussi bas, même pas 14% des voix dimanche aux Européennes, une défaite historique. Et pourtant, à entendre François Hollande hier soir à 20h devant les Français, on ne change rien.
Cette ligne de conduite, elle ne peut pas dévier en fonction des circonstances. Il y faut de la constance, de la ténacité, du courage, mais aussi de la rapidité dans la mise en œuvre, parce que les Français ne peuvent pas attendre. L'avenir ? Nos institutions, elles sont solides. Elles nous donnent les moyens d'agir. Et au bout du chemin, j'en suis convaincu, mais il faudra le démontrer. Ce sera la réussite et la réussite de tous.
Extrait de l'intervention de François Hollande hier soir à la télévision à 20h. On ne change rien, la même politique. Est-ce que c'est le message que les Français attendaient après ces élections de dimanche ?
Je crois que les Français n'entendent plus véritablement les messages, ils veulent des actes concrets.
Est-ce qu'ils entendent le président de la République déjà ?
Bah, écoutez, ils l'entendent et en même temps, je pense que nous sommes tous confrontés à un scepticisme très puissant. Je prendrai un exemple. Il y a une mesure qui a été prise par Manuel Valls il y a une quinzaine de jours sur des mesures fiscales qui seront applicables à la rentrée. Cette mesure, elle est précise, elle a été chiffrée. Elle est même, j'allais dire, au plan technique, dans les tuyaux de la réalisation. Quand on interroge les Français, et parfois au-delà, j'allais dire par là des gens qui devraient être bien informés, eh bien, il y a un scepticisme sur les faits, et sur l'existence et sur les faits de la mesure. Donc, on est, pour des raisons qui tiennent à l'état de confiance dans lequel, et de défiance, évidemment, dans lequel est aujourd'hui l'opinion, je pense que les gens attendent rien d'autre que du concret. C'est-à-dire que dans, les choses se transforment concrètement dans leur vie. Or, comme les mesures que nous avons prises seront des mesures qui prendront un certain temps, elles ont été prises après, certes, deux premières années, un petit peu de socle, qui étaient aussi des années de, j'allais dire, de...
Où les impôts ont augmenté.
Oui, bien sûr. Les impôts ont augmenté pour partie de façon totalement justifiée, parce qu'on a rétabli des éléments de justice fiscale, notamment sur les plus hauts revenus. Mais il y a eu aussi des mesures que nous avons laissées échapper et qui ont touché des Français qui n'auraient, de notre point de vue, jamais dû être touchés. Et donc, c'est pour ça que Manuel Valls, aujourd'hui, parle de baisse d'impôts, parce que c'est aujourd'hui le moyen de redistribuer du pouvoir d'achat. Eh bien, ces mesures, si vous voulez, tant qu'elles n'auront pas été mesurées, enregistrées, j'allais dire presque touché, si je peux me permettre, par nos concitoyens, il y a une défiance qui s'est installée et qui fait que le message est plus difficile à passer. Maintenant, nous savons que la reconstruction, le redressement de notre pays, de son industrie, de son commerce extérieur, qui sont les éléments de notre souveraineté et de notre richesse, eh bien, ça mettra un certain temps à le faire.
Bernard Pellegrin, de l'agence France Presse.
Il y a un chiffre terrible, enfin deux chiffres terribles qui sont sortis à la faveur d'un des sondages autour des européennes, c'est celui sur le vote des ouvriers. 42% des ouvriers ont voté Front National, 8% des ouvriers ont voté pour le Parti Socialiste.
Des ouvriers votants.
Oui, bien sûr, les ouvriers votants.
Et donc, bien sûr.
Ça ne change pas grand-chose quand même, tant l'écart est énorme. Non, comment le Parti Socialiste peut-il redevenir un parti populaire ?
D'abord, il faut pas surestimer, parce qu'il y a une espèce de vulgate qui a voulu assimiler la gauche systématiquement au camp des travailleurs et avec des chiffres. De tout temps, il y a eu
le
une partie importante.
Le sondage n'est pas meilleur pour les employés. Hein.
Non, mais je dis bien, de tout temps, il y a eu. Non, mais de tout temps, il y a eu une partie des classes populaires qui n'ont pas voté pour la gauche et encore moins pour le Parti socialiste. Premièrement, c'est la réalité de notre pays. Le vote socialiste est un vote beaucoup plus diffus dans la société. Bien, mais une fois que j'ai fait ce rappel historique, je dirais encore une fois que là, nous avons un problème majeur avec les classes populaires sur la question des résultats. C'est évidemment des éléments de pouvoir d'achat. On parlait de la fiscalité, et puis c'est l'emploi. La bataille de l'emploi, elle est absolument majeure. Et on sait qu'elle est, et elle sera très difficile, parce que nous avons un appareil industriel qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de notre économie, qui est profondément atteinte, qui continue d'un certain point de vue sur la lancée des 10 dernières années à se dégrader. Et donc nous avons un travail de colmatage, on voit bien ce que fait Arnaud Montebourg en la matière, de redémarrage sur des secteurs un peu innovants, etc., qui est très difficile. Donc nous affrontons cette réalité, et peut-être nous ne l'avons pas suffisamment bien expliqué, ni dans la campagne, mais surtout au lendemain de la prise du pouvoir, après la publication du rapport Gallois, qui a validé ces hypothèses. Et voilà, nous avons infléchi notre politique le 14 janvier dans la conférence de presse du président de la République. Du moins, les annonces ont été faites. Et aujourd'hui, ce pacte de responsabilité n'est pas encore mis complètement en œuvre, parce qu'il y a des procédures budgétaires, etc., qui mettent du temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça donnera des résultats, ça prendra un certain temps, et en même temps, il faut des preuves concrètes tout de suite que les choses ont changé pour un certain nombre de nos concitoyens.
Jean-Marie Le Guen, une question de Lilian Alemania de Libération.
Vous parlez de colmater l'appareil productif, il y a aussi la majorité qu'il faut colmater en ce moment. Les Verts ont quitté le gouvernement, les radicaux grincent, une partie même des socialistes 41 se sont abstenus sur le plan d'économie de 50 milliards sur 3 ans. Comment on empêche la majorité de s'éroder à ce point et de se retrouver d'ici quelques mois en minorité ?
Je pense que d'abord, il y a un dialogue qui s'est instauré. Je pense que de ce point de vue, la présence répétée de Manuel Valls en réunion de groupe, les interventions, les discussions, la manière dont on travaille, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on associe, je crois, beaucoup mieux le Parlement au travail des ministres, à la préparation des textes de loi. Tout ça change un petit peu la nature, et il y a au-delà de ça une pédagogie, c'est-à-dire que nous devons être dans la logique du dialogue, mais si nous ne sommes pas capables d'être dans la cohésion, dans l'unité, nous ne serons pas crédible. Et donc, ce sera effectivement un scénario négatif, pour ne pas dire autre chose, pour tout le monde. Et je pense que cette pédagogie est en train d'être perçue. C'est-à-dire que on ne peut pas être non plus dans une situation où on donne l'image aux Français d'une majorité divisée, d'une majorité qui se critique, d'une majorité qui part un peu dans tous les sens. J'étais très frappé par la réunion de groupe de ce matin, où cette gravité, cette prise de conscience est vraiment montée d'un ton très important.
C'était peut-être juste le chaos après l'élection.
Non, c'était pas du tout le chaos, c'était au contraire de la conscience de la gravité des choses et de, quelque part, de la détermination.
Alors, vous parliez de votre travail, relation entre le Parlement et le gouvernement. Au moment du vote du programme de stabilité budgétaire, fin avril, où une quarantaine de députés socialistes se sont abstenus, certains socialistes ont émis des critiques sur, on va dire, vos méthodes de persuasion. Vous les avez entendues, ces critiques ?
Alors, écoutez, la réalité est très simple, c'est que depuis longtemps, il n'y avait pas eu véritablement toujours d'intervention politique. Moi, je respecte les parlementaires, je suis un parlementaire expérimenté, j'ai eu plusieurs mandats, et donc peut-être que ce qui était nouveau, c'est qu'on parlait politique, et que je faisais appel aux responsabilités des uns et des autres. Voilà, pour le reste, c'est du folklore, et peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien, encore une fois, raconter un petit peu des histoires un peu scénarisées autour de la réalité. La réalité est tout autre, c'est tout simplement, c'est de débattre politique, c'est-à-dire quelles sont nos responsabilités aujourd'hui, comment nous allons nous relancer, sur quelle base on peut produire des effets sur notre appareil productif, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Voilà.
Il y aura deux textes importants au mois de juin, qui font partie de ce qu'on appelle le correctif budgétaire. Est-ce que vous êtes optimiste ou au contraire, est-ce que vous sentez la fronde, la gronde monter au sein d'une partie de la majorité ?
Non, je suis tout à fait optimiste parce que, encore une fois, je pense que d'abord, les textes ont été votés.
Ce vote, ce sera la mise en œuvre pratique du pacte de responsabilité.
Et d'ailleurs, je constate que malgré toutes les difficultés que vous avez notées, qui sont exactes, les textes qui portaient ont été votés à l'Assemblée nationale assez largement, votés par la gauche, c'est-à-dire elle seule, quoi qu'on en dise, de façon majoritaire.
Avec une majorité relative.
Oui, mais une majorité, elle est majoritaire. Je veux dire, vous ne posez pas la question de savoir aux élections si les 25% de Front National, vous ne les rapportez pas aux 60% d'abstention. Il y a un moment, on s'exprime. Donc, il y a eu une majorité qui s'est exprimée pour... même pas relative, d'ailleurs, elle était équilibrée à peu près, en termes de relativité, si vous voulez. Mais une majorité de gauche qui s'est exprimé et qui a donné au moment le pire, hein, au lendemain des élections municipales, où c'était très traumatisant. Bon, parce qu'en fait, la séquence des européennes, c'est la continuité de la séquence des municipales. C'est les mêmes ingrédients et j'allais dire les mêmes résultats. Donc, non, moi je suis confiant. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'est instauré aujourd'hui entre les ministres concernés et les parlementaires concernés. Je pense qu'on est dans la logique de ce pacte, on est dans la cohésion politique. Le Premier ministre s'implique fortement à l'Assemblée nationale, aux côtés des parlementaires. Je pense que les parlementaires savent aussi qu'au-delà des résultats, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient très mauvais, pas simplement d'ailleurs ceux du Parti Socialiste, mais les contestataires dits de gauche de la gauche, les écologistes qui ont perdu la moitié de leur voix, ils croyaient en quittant le gouvernement revenir. Jean-Luc Mélenchon, qui fait dans des circonstances très particulières un score tout à fait mauvais, alors même que l'extrême gauche elle-même a baissé.
Le total bref, gauche, 33%.
Absolument.
Près, voilà.
C'est donc que ça ne se rapporte pas simplement au Parti Socialiste. Tout le monde doit s'interroger. De la même façon que tous les Républicains, au regard de ça, s'interrogent. Et nous appelons à la responsabilité de tout le monde.
Bernard Pellegrin.
Non, malgré tout, quand même, je vais vous reciter deux chiffres. Je suis désolé. Un parti socialiste à 14% aux dernières élections, les européennes. Un président de la République à 18%, 20% selon les sondages de popularité. Donc on peut, grosso modo... vous ne pouvez, grosso modo, compter ni sur le parti, ni sur le président pour arriver à coller les morceaux avec le pays. On les recolle comment, ces morceaux ?
Par le travail, par l'humilité, par la pédagogie, par les résultats concrets. On a des institutions. François Hollande a été élu par les Français pour 5 ans. Il y a eu ensuite des élections législatives qui lui ont donné une majorité. Cette majorité va travailler et nous allons obtenir des résultats au fur et à mesure. Je veux dire, on ne peut pas vivre... Excusez-moi, je comprends très bien que c'est votre métier de nous interroger et les médias sont dans la quotidienneté. Nous sommes pour construire une stratégie sur un certain temps. La mutation, nous vivons une mutation comme on n'en a pas connue depuis en tout cas les 40 dernières années. Bien, on est peut-être un peu à l'image de ce redressement national qui s'est fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand notre pays avait été très largement détruit par la guerre. Eh bien, nous sommes un peu dans cette situation-là, sans que ce soit la guerre,
oui,
mais par...
Vous êtes gardé quand même.
Non, je ne crois pas. Je vous rendais pas compte des chiffres, et d'ailleurs, je veux pas dire que vous vous rendez pas compte, parce que sans doute vous vous rendez compte, mais quand vous voyez les désastres sociaux du chômage, quand vous voyez la manière dont notre appareil industriel est aujourd'hui très largement déclassé, je pense qu'il y a quand vous voyez la crise du logement, par exemple, qui existe dans ce pays, je pense qu'il y a un effort de redressement national tout à fait considérable. Alors je vais pas dire qu'il va prendre 10 ans ou 20 ans, comme on l'a fait après la guerre, mais on est un peu dans cette idée-là. D'abord, elle doit faire appel, me semble-t-il, à du patriotisme, parce que sans patriotisme, on n'y arrivera pas. Il faut sans doute dépasser les affrontements les plus spontanés qui peuvent exister dans notre pays. Il faut un appel, moi ça ne me gêne pas, à une certaine forme d'union nationale, non pas politicienne, mais que au-delà de ça, chacun prenne ses responsabilités. C'est vrai pour le groupe socialiste, c'est vrai pour d'autres groupes, c'est vrai pour les forces sociales de ce pays. Si on continue la chicaya, le sectarisme, etc., je pense que nous n'arriverons à rien. Notre pays a besoin de paix sociale, il a besoin de coopération, il a besoin de force, de mobilisation pour retrouver... toute sa puissance.
Jean-Marie Le Guen, Bernard Pellegrin évoquait la très forte impopularité de François Hollande. Est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui à 100% qu'il sera bien le candidat socialiste en 2017?
Mais c'est pas la question qu'il se pose et c'est pas la question que nous nous posons.
Certains socialistes se la posent
mais
déjà.
Mais peut-être, mais il y a certains socialistes qui s'assoient le long du chemin sur un banc et qui commentent la vie politique. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça fait partie beaucoup de l'activité que vous pouvez éventuellement leur prêter. Voilà. Ces commentateurs ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire la rentrée, comment on va essayer de redonner de l'espoir à des jeunes, comment on réforme notre pays. Voilà, c'est des tâches qui sont imminemment plus intéressantes.
Mais Monsieur Le Guen, il y a 2 ans qui viennent d'être passés déjà. Ouais. 2 ans que vous avez écarté tout à l'heure en réponse à une de nos questions, comme ça, un petit peu en disant « bon, c'est pas trop bien débrouillé sur les 2 premières années, passons ». Il reste 3 ans, dont une qui sert pas à grand chose puisque c'est l'année présidentielle. Tout ce que vous venez de nous dire avec un certain lyrisme qui était intéressant à écouter.
Merci. En tout cas, vraiment... croyez bien qu'il, comme vous le voyez, il est ressenti.
Oui. Est-ce que 2 ans, c'est possible?
C'est possible. C'est possible. On n'arrivera pas au bout du chemin dans 2 ans, mais dans 2 ans, on aura tracé une route. Et dans cette route, je pense que les Français peuvent se retrouver. Je pense qu'ils ont besoin, je vous ai beaucoup parlé des résultats concrets, je pense qu'ils ont besoin de sens. S'ils voient qu'ils commencent à avoir des résultats, des perspectives, une issue, alors on aura mobilisé et on retrouvera notre force politique.
Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Mardi Politique. Le salut de la France passe-t-il par l'Europe ? François Hollande est à Bruxelles en ce moment pour plaider une nouvelle fois pour la réorientation de l'Europe. Prêtez l'oreille, le son est de mauvaise qualité.
Oui, il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème simplement pour la France, qui doit y répondre en France, à travers une politique qui doit d'abord résoudre la question du chômage, de la précarité, des inégalités, de la peur. Mais c'est un problème aussi pour l'Europe. Et l'Europe doit entendre ce qui s'est passé en France. Et mon rôle ici, c'est de continuer ce que je fais depuis 2 ans, réorienter l'Europe, mais avec encore plus de force. Parce que si dans quelques années, l'Europe n'a pas répondu aux attentes, alors il y aura d'autres votes, en France comme ailleurs, qui s'exprimeront contre l'Europe. Je suis européen, je veux que l'Europe change.
Jean-Marie Le Guen, comment, dans une telle position de faiblesse aujourd'hui, après 2 débâcles électorales, François Hollande peut-il obtenir ce qu'il n'a pas réussi à obtenir en 2 ans ?
Je pense que depuis 2 ans, on s'est un peu regardé en chien de faïence. Il y a des progrès qui ont été faits. Alors, ils sont un peu trop techniques pour en entendre forcément facilement parler. Je pense que ce qui s'est fait sur l'union bancaire, sur une certaine remise à flot encore partielle des monnaies, enfin de l'euro,
il y a eu quelques progrès,
etc. Oui, il y a eu des choses
qui
se sont
faites. Oui, mais sauf que les politiques d'austérité sont toujours là.
Oui, enfin... Les politiques d'austérité, elles sont présentes dans un certain nombre de pays de l'Europe du Sud, notamment, ou de l'Irlande, ou d'autres, pas en France, véritablement, pas en Allemagne.
En France, il y a la contrainte des 3%.
Oui, mais c'est pas une contrainte posée par l'Europe. Faut sortir de cette idée-là.
On est à 4%. C'est une contrainte qui est dans les traités.
Mais non, mais c'est pas le sujet. Quand vous êtes à 95% d'endettement, vous allez continuer jusqu'à quand endetté pour vous mettre dans la main des marchés. Enfin, je veux dire, moi, je suis ébahi de cette gauche de la gauche qui vient nous expliquer qu'il faut continuer à aller emprunter sur les marchés financiers, les fameux marchés financiers, cette fameuse finance, et que vraisemblablement, ces gens-là n'ont d'autre but dans la vie que de nous permettre de nous financer et de ne pas nous réformer. C'est pas sérieux. On a atteint un degré d'endettement qui pose un problème à la France. C'est pas la question de l'Europe. Il se trouve que l'Europe a dit un certain nombre de choses de traités qui, par ailleurs, ne sont pas respectées. Bien. Alors, nous voulons faire des réformes sur notre finance publique parce que nous voulons avoir notre souveraineté, premièrement. Deuxièmement, nous voulons faire des réformes pour que notre pays soit plus attractif, plus compétitif, parce que nous avons perdu de la compétitivité et de l'attractivité. Alors maintenant, là où vous avez raison, c'est que là, l'Europe, dans son ensemble, a dicté des normes d'austérité, notamment à un certain nombre de nos voisins du Sud, qui ont été très récessives. Et là, ça nous pose un problème indirect, et donc il faut changer cette politique en Europe, c'est-à-dire qu'il faut pas changer la politique de la France, il faut changer la politique que l'Europe elle-même permette à certains pays, notamment la Grèce, le Portugal, etc., à avoir des retours qui soient plus longs, à avoir une politique aussi que l'Allemagne consomme plus. Voilà, il faut faire partir la machine européenne et la bonne préparation de l'économie française lui permettra d'en profiter à plein.
Très rapidement, Jean-Marie Le Guen, la dernière question de l'émission, elle vous est posée par Lilian Alemania.
Ce traité, ces normes, elles ont été inscrites dans un traité que François Hollande avait dit qu'il renégocierait. Est-ce qu'elle n'est pas là la faute originelle de François Hollande en Europe ? De
pas
avoir être allé à Bruxelles le lendemain de son élection et de dire « je veux renégocier ce traité ».
Et alors ? Est-ce que ça aurait pu quoi faire ? Ça aurait pu faire qu'on puisse avoir 150% d'endettement ? Vous voulez qu'on soit comme l'Italie ? Pourquoi vous voulez absolument que la France ait 120% d'endettement ? Expliquez-moi, si je peux me permettre de vous interpeller.
On n'aura pas travers... le temps, Jean-Marie
Pourquoi
Le Guen, très rapidement, 10
que
secondes.
Que l'endettement soit à l'avenir. Alors j'entends le discours économique, un petit peu d'endettement permet de faire repartir la machine. Mais ça fait 30 ans qu'on vit avec cette drogue.
Merci.
Ça fait 30 ans.
Merci Jean-Marie Le Guen. C'est le mot de la fin de mardi, politique, réalisé par Mathias Golchani avec le soutien d'Audrey Atoni. Très bonne soirée à tous.